Randall ne fait pas le printemps. Tôt ou tard, il faudra bien qu'elle mette le nez dans la ferme. Et on verra comment elle se débrouille, la parisienne.
CO2, mon amour. Denis Chessoux.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, un vrai temps pour écouter la radio. Aujourd'hui avec à la technique Sandrine Laurent et Maxime Ingrand et assisté de Stéphane Combe, je n'oublierai pas Albert Houck à qui je souhaite une bonne réparation, Christophe Imbert qui réalise l'émission. Alors sa voix était reconnaissable entre toutes. Ce 11 septembre, elle a définitivement opté pour le silence. Définitivement, rien n'est moins sûr, car Albert Jacquard se plaisait à dire « Je ne serai jamais mort, de toute façon on ne peut pas conjuguer le verbe être avec le mot mort ». Nul doute par conséquent que les mots de cet infatigable partisan d'une humanité réconciliée avec la nature resteront pour longtemps dans les mémoires. En particulier, sa vision de la décroissance n'était pas synonyme de retour à la caverne et à la bougie, comme se plaise à le clamer jusqu'à la caricature ceux qui foncent dans le mur en klaxonnant, mais s'apparentait à une sorte de sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi. Comme pour rappeler qu'il n'y a aucun sens à dilapider les ressources d'un monde fini.
Bon, j'aime bien le silence, j'aimerais bien m'arrêter, et puis de temps en temps, je reçois un coup de fil, Albert, tu sais, il se passe telle chose, il y a des familles qui sont dans la rue, etc. Comment voulez-vous que je reste dans mon silence confortable ? Il faut bien que je vienne. Il paraît que je peux être utile, ben je viens. Je ne peux pas dire non. Alors du coup, ben, alors je pousse mon coup de gueule. Mais ce n'est pas pour le plaisir de gueuler, c'est par le devoir de rester solidaire et puis par tout ce que j'y gagne à ces rencontres. Si les scientifiques mettent leur capacité au service des économistes, c'est qu'ils auront perdu leur âme. Véritablement. La finalité de la science, c'est de comprendre le monde, de renaître au monde. Cette connaissance, vous savez, comme disait Claudel, co-trait d'union naissance. Eh bien, si par hasard les scientifiques sont au service des économistes, toute cette connaissance ne sera plus qu'un désir d'être efficace, le fric. Au fond, devrions être dans la position d'un père de famille qui a une belle propriété. Et puis on est 6 milliards d'héritiers. Songez au pétrole, il y en a pour moins d'un siècle. C'est pas sérieux. Mon arrière-petit-enfant à qui je m'adresse, hein, il pourra dire, dis donc arrière-grand-père, tu as été un voleur. Tu m'as volé le pétrole, il n'y en a plus. Alors il est temps de devenir raisonnable. Et je crois que la véritable route de l'humanité, c'est de quitter le plus vite possible sa crise de puberté.
Au-delà des combats qu'il a constamment menés en faveur des plus défavorisés, eh bien ce scientifique doublé d'un philosophe a sans cesse rappelé son émerveillement pour la fantastique diversité du vivant et pour les multiples visages de l'humain, comme pour le savoir-faire sans pareil des modestes abeilles.
Moi, j'ai parcouru les trois quarts du XXe siècle. Alors, je joue le rôle là de l'arrière-grand-père qui réfléchit. Mais des leçons, il faut tout de même qu'il se rende compte à quel point il est dans un lieu, la Terre, dans l'espace. Cette Terre est toute petite et il n'y a pas longtemps qu'on le sait. Alors qu'avant, on imaginait qu'on avait toujours de la place. On avait un ailleurs. La Terre, on en a fait le tour. On a des photos de tout. Et par conséquent, toute l'imagination va être obligée de s'en aller dans une autre direction. Mais véritablement, savoir que la Terre est un lieu que l'on connaît, dont on a fait l'inventaire, cela nous donne des devoirs nouveaux vis-à-vis de cette Terre. Elle est fragile. Autrement dit, le mot clé pour moi, c'est le mot rencontre. Finalement, une vie d'homme, c'est une série de rencontres. Dites-moi qui j'ai rencontré et vous connaîtrez ma vie. Et vous connaîtrez même ma personne. Parce que ma personne, elle n'a pu se créer qu'à travers des rencontres.
C'est à lui que l'on doit d'ailleurs cette très jolie phrase « Tu es les liens que tu tisses, tu es les liens que tu tisses ». Alors Albert Jacquard insistait aussi sur cette impasse dans laquelle nous mène la compétition effrénée entre les individus, cette lutte perpétuelle de chacun contre les autres. La compétition systématique entre les êtres humains est une ânerie, martelait-il. Et parmi les engagements d'ailleurs aussi qu'il avait, on en a très peu parlé, mais enfin tuer des taureaux dans une arène n'est pas un art pour lui, mais une régression de la nature humaine. Et comme le philosophe Jacques Derrida, eh bien Albert Jacquard était aussi président d'honneur du comité comité radicalement anti-corrida en Europe. Que sa sagesse donc soit entendue par le plus grand nombre. Et cet homme, aux origines d'ailleurs aussi ancré à Besançon, en Franche-Comté, où il y a d'ailleurs, me semble-t-il, plus de vaches pombélières que de taureaux de combat, eh bien, aimait ce territoire.
Alors, Champagnole, c'est-à-dire la forêt, les sapins.
Parce que là, on a une très belle sapinière lorsque l'on aime ces coins-là. Donc, il y a la forêt de Joux.
La forêt de Joux, oui.
Alors, Champagnole, voilà.
Alors, forêt de Joux, on la voit sur la carte. Mais pour moi, la forêt de Joux, c'est la traversée de cette forêt en voiture en hiver, quand il y a de la neige partout. Quand vous avez un stress quelconque, quand vous êtes un peu tenté d'aller vite, vous venez dans la forêt de Joux et puis vous attendez. Et vous avez l'impression que l'attente est riche. Il ne se passe rien, il fait froid, mais il y a de la neige. Puis de temps en temps, il y a un sapin qui s'ébroue un peu, qui fait tomber de la neige. Au fond, c'est ça. Une forêt de sapins, ça vous donne la leçon que le temps ne passe pas comme ça tout seul. Le temps, c'est la fameuse phrase de Saint-Augustin, le temps ne passe que s'il y a des choses qui se passent. Et par conséquent, là, on rejoint l'éternité. Car l'éternité, c'est l'absence de temps. Et dans la forêt de la Joux, eh bien, vous avez l'éternité présente avec des sapins qui n'ont je ne sais pas quel âge. Mais non, ils n'ont même plus d'âge. Ils ont une espérance de vie qui est pratiquement illimitée. Puis moi, je suis avec eux. Alors, je bénéficie un petit peu de leur espérance de vie illimitée. Je me sens calme, du coup. Je suis plus stressé. La mort ne s'approche pas. Alors qu'elle s'approche quand je suis sur la route en train de courir ou dans les rues de Paris en train de me précipiter. Là, dans la forêt de la Joux, eh bien oui, j'ai rejoint l'éternité.
Vous imaginez le bonheur d'avoir rencontré cet homme plusieurs fois, et là c'était donc en 2000 tout à fait précisément, donc merci Albert Jacquard. Et puis autre bonheur, c'est dans quelques instants, c'était au mois d'août, et c'était avec Jean-Claude Carrière, et bien qui va donc être avec nous tout au long de cette émission, bien sûr enregistrée, puisque c'était chez lui à Colombières-sur-Orbe.
Il y a ceux qui brûlent en enfer pour l'éternité dans les flammes éternelles, sont gris une petite dernière sur le balcon en slip et qui se les gèle. Il y a ceux qui font des insomnies sur des matelas de mousse morphologique et ceux qui crassent comme des sourds avec des matelots mousse boutique. Et toi, de ceux qui croient,
do you know?
Et puis de ceux qui planent, ou de ceux qui planifient,
who you are?
Et de ceux qui croient,
do you know?
De ceux qui se taisent, ou de ceux qui terrifient,
who you are?
Et de ceux qui croient,
are you really ready for me? The R, the O, the X, the A, the N, N, E. We're guaranteed to make you dance, whether here in the States. Yeah, we know who you are, and my man Feloche will make you a star. It's much, much more than a groove and a beat and a flow that'll make you wanna go and move your feet. But the question is now, do you know who you are?
Il y a ceux qui pleurent tout seuls dans le lit glacé des rivières crocodiles. Et ceux qui pissent entre potes la nuit dans les rigoles de la ville. Il y a ceux qui croassent prudemment avec les grenouilles au fond des bénitiers. Et ceux qui croassent n'importe comment parmi les roseaux en dépit du danger. Et toi, de ceux qui croient,
do you know?
Et puis de ceux qui planent, ou de ceux qui planifient,
who you are?
Et de ceux qui croient,
do you know?
De ceux qui
Oui, t'es de ceux donc choisis par Thierry Dupin, notre programmateur. C'était Féloche qui a quitté donc cette île des Canaries de la Gomera où nous avait tout à fait enchanté avec le Cibo. Un autre homme qui va nous enchanter, qui va nous enchanter également, vous connaissez sa voix, c'est Jean-Claude Carrière. Alors là, nous sommes sur le côté massif central et en face, c'est déjà la Méditerranée.
Oui, nous sommes à la limite. La commune de Colombières et les communes voisines, le Poujol, le Mont-Saint-Trévert, etc., sont hybrides, si j'ose dire. Oui. Elles sont à la limite, on pourrait presque suivre sur le sol, la limite entre le climat océanique et méditerranéen.
Oui, c'est la césure, là.
Derrière nous, à 1000 mètres d'altitude, sur le Caroux, il y a encore des hêtres. Oui. Et ici, il y a des oliviers. Voilà, c'est le grand changement en face. Là, c'est totalement méditerranéen, il n'y a plus rien du socle ancien. Nous sommes ici sur une montagne de gneiss, de marbre, de micaschiste, vous voyez, de roches très anciennes. En face, c'est du calcaire, c'est du sédiment. Je ne dis pas que je le méprise,
non.
Mais il est jeune.
Oui.
Mais bon, ces montagnes sont des
gamins.
Oui,
voilà.
Absolument.
Alors là, on a ce vent donc, qui balaye bien d'ailleurs aussi les nuages. Hein, on va avoir du...
Il fait très
bleu.
Beau aujourd'hui, la grande chaleur est passée, c'est magnifique, il fait un temps exquis.
C'était donc il y a un mois, dans le chaud et dans le doux du mois d'août, en descendant de la Lozère et avant de gagner donc des Alpes un peu plus hautes, moi j'ai eu la chance de faire le détour par ce très beau département de l'Hérault. Vous avez donc bien sûr la côte qui est surpeuplée et le pays, voire l'arrière-pays comme on dit, donc vous avez celui des Cévennes avec sur fond des Goiles, et puis celui des monts de l'Espinouse, dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, qui n'existait pas à l'époque où Jean-Claude Carrière y est né, à Colombières-sur-Orbe. Et là, il faut imaginer ce petit garçon de 6 ans, fils, petit-fils de viticulteur, qui produisait, on le sait, ce vin bourru, et qui a voulu mettre un Bouddha dans la crèche à Noël. Oui, donc c'est une sorte de précurseur, on va dire, du brassage, des croyances, des cultures et du métissage avant l'heure. Alors après, les bons pères de Saint-Pons lui ont définitivement permis de perdre la foi et de devenir un des meilleurs connaisseurs des religions. L'homme, on le sait, il est fertile, un peu comme une terre limoneuse, si vous voulez, est un homme de culture extensive qui guette le merveilleux. Et Bunuel, avec qui, bien sûr, il a beaucoup travaillé, disait de lui, c'est un petit paysan qui s'émerveille de tout ce qui lui arrive. Je rejoins la Jean-Claude Carrière. On est en train de traverser une bambouseraie. Alors, c'est pas celle d'Anduze. Mais c'est une vraie bambouseraie. Hein.
Ah oui, c'est des vraies bambouilles, il n'y a aucun doute. Pas du tout. Ouais.
Non, pas du tout.
On arrive là au bassin aux poissons.
Wow.
Dans le pré.
Oui.
Il y a pluie, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. On est vraiment à la campagne.
Et alors, on entend peut-être le...
On entend le vent.
On entend le vent. Oui. D'ailleurs, il y a un col des 13 vents qui n'est pas très loin.
Oui, qui est pas loin d'ici. On peut s'asseoir, si vous voulez, là-bas sur ce banc.
Ah oui.
C'est un endroit où je m'assieds souvent. Où je laisse comme ça le... Parce qu'ici, il y a un air très très pur, parce que le vent qui arrive ici et qui vient du nord-est a traversé 300 km de forêt.
Donc il assainit beaucoup de choses.
On pense qu'il est assez bon à respirer.
Oui.
Vous voyez, regardez, on peut se
mettre
là.
Et alors là, on est sur la pierre du pays, hein,
oui,
tout à fait.
Oui, les Lauzes, les grandes Lauzes.
Oui. Là, on se pose là, et on est face à cette vallée de l'Orbe. En tout cas, merci de nous accueillir chez vous, Jean-Claude Carrière, parce qu'en fait, c'est votre maison d'été, c'est-à-dire que là, vous y passez rituellement depuis...
Les deux mois d'été, mais j'y viens aussi quelquefois à Noël, quelquefois même pour un week-end. Enfin, maintenant, avec le train, c'est assez commode, il vient jusqu'à Béziers, le TGV, et Béziers est tout près. Mais c'est la maison où je suis né, et je l'ai aménagé, bien sûr, c'était une maison de paysan en mauvais état, que j'ai restauré, que j'ai agrandi, etc.
Maison de viticulteur.
De viticulteur et de... Oui, mon père était un petit viticulteur, il y avait aussi des châtaignes, des cerises, enfin, c'était un petit paysan, je crois qu'il avait 2 hectares de terre, ou 2,5 hectares, quelque chose comme ça. Et déjà depuis les années 50, il était impossible de vivre sur une aussi petite surface. Ouais. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de paysans dans le village, il n'y a que des estivants, des étrangers, des retraités, ou des gens qui ont un travail dans les villes des environs, dans les grosses villes des environs. Mais j'ai plus gardé la maison, voilà, ça c'était... J'ai toujours beaucoup tenu toute ma vie à la garder, même quand elle était en très mauvais état. Sentant qu'il y avait ce qu'on appelle un lien ou une, une racine. En me demandant d'ailleurs si c'était une bonne chose. Si c'est une bonne chose d'avoir une racine quelque part, ou, puisque nous allons apparemment vers un monde très mélangé et très diversifié, si au contraire il ne faut pas naître métisse, naître déjà de nulle part. Faut-il être de quelque part ou naître de nulle part? C'est une question où la réponse n'est pas si facile. Et on a toujours tendance, il vaut mieux être de quelque part, c'est pas sûr, parce qu'on risque de se bloquer sur une série d'impressions, de sentiments, de soi-disant certitudes, et de ne pas être ouvert aux autres.
Ça vous a prouvé le contraire quand même, parce que...
Oui, parce que peut-être, moi j'ai eu la chance assez tôt, vous voyez, en face de nous, derrière de nous il y a le massif de l'Espinouse et le Caroux, en face de l'autre côté de la vallée, ce qu'on appelle le Sauvanière, et là-bas la Montagne Noire. Donc je suis né, vous voyez, entouré de montagnes. Nous n'avons aucune vision du monde extérieur au-delà de ces montagnes. Et quand j'étais enfant, il n'y avait pas de livre dans ma maison, ni d'images, rien, absolument rien. Les premières images que j'ai eues, c'était les albums de Tintin et Milou. Et dans Tintin et Milou, ce que nous recherchions, c'était les dessins d'Hergé représentant le Caire, par exemple, ou tel ou tel un avion, un bateau, toutes choses que nous n'avons pas vues.
Voir la Lune.
Voir la Lune, plus tard, oui. Que nous ne connaissions pas du tout. Donc j'avais la sensation que derrière ces montagnes, La sensation, la certitude, on me disait il y avait un autre monde, mais je ne connaissais pas. Par exemple, hier j'étais à Sète, je faisais une rencontre au musée Paul Valéry, et Sète, qui est à 45-50 km d'ici, c'est le premier endroit où j'ai vu la mer quand j'avais déjà 7 ans.
Ah, il a fallu 7 ans
pour
sortir de cette vallée.
C'est un car scolaire qui nous a amené un jour voir la mer. Ouais. Alors qu'on est sur la carte, on est tout près de la Méditerranée. Oui. Par la suite, je l'ai vu assez souvent.
Oui, quand même. Alors là, Jean-Claude Carrière, en fait, nous sommes sur la fin du Massif Central. Quoi. C'est là que vient mourir le Massif Central.
Oui, en principe, oui. C'est-à-dire que nous sommes sur cet arc de cercle qui boucle, vous voyez, en bas, le Massif Central, qui va du Périgord à la Lozère, et qui est l'ancien habitat préhistorique. Ça, de Lascaux à la Combe d'Arc, à la Grotte Chauvet, en passant par ici. Il y a beaucoup de vestiges ici. Dans le village même, il y a des menhirs, des dolmens, un peu plus loin, au large, des pierres gravées très anciennes. Nous sommes sur un habitat très très ancien, le plus ancien de France. Et peut-être un des plus anciens du monde, puisque la Grotte Chauvet, c'est quand même plus de 300 siècles d'existence, avec déjà une manifestation artistique extrêmement brillante. Il n'y a pas ça dans le reste du monde. Et quand j'entends des Indiens, des Iraniens, des Égyptiens se battre pour dire, se disputer pour dire « mais je suis plus vieux que toi », on peut toujours être plus vieux. Alors, moi, c'est il y a 3000 avant Jésus-Christ, 4000, 5000, 6000,
de la rigolade.
Bon, je les laisse rire, je les laisse parler. Puis je dis, vous savez, nous, c'est 30 000 avant.
C'est le minimum.
Le minimum. Entre la Combe d'Arc et Lascaux, il y a 160 siècles. C'était autant qu'entre Lascaux et nous. Le socle ancien sur lequel nous vivons ici en particulier, mais l'humanité en général, mais ici en particulier, le plus ancien du monde, est très impressionnant. Ce qui se sont succédé, moi, quand je marche dans la montagne et que je vois les énormes pierres qui constituent les chemins, les murs, comme ça, qui ont été bougés et mis en place, on ne sait plus quand. C'est se perd dans ce qu'on appelle la nuit des temps. Je pense à tous ces efforts de ces hommes qui se sont succédés ici pour élever... pour très longtemps, ils construisaient pour très longtemps, et peut-être nous sommes au moment où ces travaux vont être totalement inutiles, où les murs s'effondrent, où la terre s'en va, et où la planète tout entière est menacée d'un changement brutal.
Justement, Jean-Claude Carrière, vous, en fait, votre relation avec la nature, elle était évidente. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas d'écologie dans les années 30, 40, c'était là. C'est-à-dire qu'on faisait avec. Mais c'est ce qui vous a complètement nourri, en fait. Quand on parle du sol, vous savez ce que c'est véritablement.
Je pense un lien très précis avec, en tout cas, le sol d'ici, mais même aussi d'autres sols, parce que ça a été ma première culture. Ce que mon père m'a appris d'abord, c'est à faire ce qu'il faisait lui, pour que je puisse prendre sa succession. C'est-à-dire faire, je sais encore aujourd'hui greffer un arbre, je sais labourer avec un cheval, ce qui n'est pas simple, à condition de trouver un cheval qui sache, toujours. Je sais tailler la vigne, je sais m'occuper d'un jardin, évidemment. On m'a appris ça déjà à l'âge de 4 ou 5 ans. Mon père me donnait un coin du jardin et me disait, ça c'est à toi, tu sèmes et tu plantes ce que tu veux et nous le mangerons. Ouais. Donc c'est déjà cette responsabilité-là, ce rapport avec un sol qui pour nous, non seulement est la terre d'où nous venons, d'où nous sommes nés, de laquelle nous sommes composés, mais elle est la terre qui nous fait vivre. C'est pour ça que quand il pleut dans ce climat ici qui est plutôt sec, c'est une bénédiction. Il a plu il y a quelques jours, tout le monde était radieux. Pour nous, le beau temps, c'est la pluie, évidemment. Ouais. Et quand je vois que maintenant tout ce village est en friche, que c'est pas forcément un mal, la friche, hein, c'est pas. Mais que quand même, on laisse pousser des arbres en grande quantité, lesquels pompent l'eau en grande quantité dans la terre. Vous voyez, c'est assèche le sol. Le sol n'étant plus entretenu, je me dis quelquefois, où allons-nous même ici, même dans cette raison, dans le reste du monde, où, comme vous le savez, l'agriculture est devenue folle.
Jean-Claude Carrière, votre sensibilité à l'environnement, à la nature, bon, on le comprend bien, est née ici tout à fait naturellement. Et puis en fait, vous avez été parmi les premiers à vous engager en écologie.
C'est venu une fois dans oui, j'avais un sentiment, déjà dans les années, au début des années 60, même bien avant 68, j'avais le sentiment d'une vague inquiétude. À l'époque, c'était les Trente Glorieuses, tout le monde allait de l'avant, il fallait produire et consommer de plus en plus. On n'avait pas encore inventé l'expression « société de consommation ». Et un jour, j'ai rencontré en Espagne, je me rappelle, des Japonais, un père et sa fille, qui étudiaient ce que mangeaient les mystiques espagnols au XVIe siècle. Ah. Ça, c'était tout à fait pour m'intéresser.
Oui.
Sainte Thérèse, Juan de la Cruz, etc. Et nous avons discuté, et c'est lui qui, le premier, m'a dit « peut-être il faudrait cesser d'avoir des enfants ». Ça m'a beaucoup frappé. Quelques temps après, est paru un livre qui s'appelait « Le printemps silencieux
oui. »,
qui a eu beaucoup de...
Et puis, Carlson, oui.
Et puis, des livres de Commoner, d'Erlich, je me suis trouvé entre les mains. Et j'ai tout de suite, mais dès les années 66-67, adhéré. J'ai été un des premiers adhérents de Terre des Hommes, des toutes premières associations écologistes avant 68. Après, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Le Paris », qui est paru en 72, dans lequel je faisais un peu le point, non pas du tout de ce que je savais, c'est pas moi qui l'avais découvert, mais de ce que j'avais lu dans les livres, j'avais participé à des congrès, j'étais allé à des rencontres, etc., à droite et à gauche, y compris en Suède. Et ce livre, quand on le lit, je n'ai lu pas un seul article dans la presse, mais rien, tombé comme un caillou dans une eau sombre. Et quand on le lit aujourd'hui, tout est là. Mais de l'algue envahissante Alors, le problème était que je mettais l'accent, depuis ma rencontre avec le japonais, sur la
démographie.
Oui, sur la surpopulation.
Alors là, évidemment, c'est le sujet tabou là, par excellence, on le sait.
C'est ça qui m'a toujours et qui me frappe encore le plus aujourd'hui. Oui. C'est que dans tous les débats que j'entends, quelquefois à la télévision, à la radio, dans la presse, sur les dangers qui nous menacent, on ne parle jamais du premier danger qui est nous-mêmes, qui est la prolifération de nous-mêmes. La démographie, moi j'ai beaucoup de démographie autrefois, je l'ai étudiée même, j'avais fait l'histoire et géo avec spécialité de démographie, est le phénomène le plus important de l'histoire de l'humanité. Passer de 1 milliard en 1900 à 7 milliards et demi moins de 120 ans après, c'est énorme. Ça bouleverse totalement les rapports que l'humanité peut avoir avec la petite planète qui la porte. Et quand on parle des problèmes économiques, sociaux, écologiques, etc., du réchauffement climatique, de tout ce que vous voulez, on ne parle jamais de démographie.
Parce qu'on ne veut pas s'interdire de faire des enfants soi-même.
Je pense qu'il y a quelque chose de mystérieusement sacré Nous sommes notre véritable ennemi, c'est nous. Ça, aucun doute là-dessus. Nous ne sommes pas notre véritable ami. Il semble que notre désir profond, clairement exprimé dans la Bible, remplissez la terre.
Croissez, multipliez.
Multipliez-vous et remplissez la terre, soit tellement enraciné en nous, ancré en nous, que nous ne le voyons plus.
Ah, en même temps, ça a été fait à une époque où il y avait 200-250 millions d'habitants
sur Terre.
Oui, bien
sûr, ça pouvait se comprendre, mais quand même, cet encouragement biblique,
oui.
Je ne dis pas divin, non, j'ai athée, je ne crois pas en Dieu, mais biblique, ça a été quand même écrit dans un livre qui a eu un certain prestige, on peut le dire.
Oui.
Et je suis persuadé qu'il reste encore en nous-mêmes quelque chose de cette certitude que nous, non seulement nous possédons la Terre, nous sommes l'espèce privilégiée, non seulement sur la planète, mais dans l'univers, là, créé à l'image de Dieu, etc. Mais que notre devoir est de recouvrir entièrement la surface de la Terre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, la planète peut nourrir 12 milliards d'hommes? Elle peut leur donner à 12 milliards une voiture, et de l'énergie, et de l'essence, et des loisirs, et de la culture, et du plaisir, et de la gastronomie, et des bons vins, enfin tout ce que... C'est pas vrai.
Non, mais en revanche, c'est le capitalisme est tout à fait pour ça. Ils ne vont pas restreindre la natalité.
Non, mais il y a des pays qui l'ont fait. Et là, quand je commence à en parler, la Chine, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment, si la Chine n'avait pas eu, il y a 60 ans et plus, les mesures draconiennes, qui l'ont fait beaucoup hurler à l'époque de Mao Tse-Tung, prises pour limiter la croissance de la population, si la Chine avait aujourd'hui, ce qui serait le cas, 4 ou 500 millions d'habitants de plus, elle ne serait pas la Chine qu'elle est, c'est évident. Alors je comprends très bien que d'un point de vue commercial, du point de vue des économistes, particulièrement des économistes qui s'appellent libéraux, il soit très important d'avoir des bébés, parce que les bébés sont des clients.
Oui.
Des clients, ça, naturellement, ça active la circulation des biens, hein. Ça oblige à créer de nouvelles richesses, etc. Mais c'est le seul point de vue que l'on entend. On n'en entend pas d'autres dans aucun débat.
C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit
pas... Naturellement, il n'y a pas non plus d'opposition religieuse, parce qu'aucune religion n'a parlé de limiter, pour toutes les religions, l'espèce humaine et le miracle de la création.
Alors des gens vont vous dire, oui, mais Jean-Claude Carrière, vous, c'est bien parce que vous êtes en vie, vous dites ça, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, et comment on peut interdire aux autres de se reproduire? Et peut-être qu'il y aura aussi des Mozart, des Van Gogh et d'autres Jean-Claude Carrière qui ne pourront pas naître.
Oui, mais ça, on s'en fout. Ceux qui ne seront pas nés, on s'en fout. Moi, je suis marié en seconde noce à une Iranienne. En Iran, malgré le régime religieux, ou peut-être grâce à lui, le taux de fécondité est de 1,4.
Oui.
Il a beaucoup baissé.
La moyenne mondiale, c'est 2,1.
Oui, l'Iran s'enterre beaucoup mieux que notre pays. La première fois que je suis allé en Iran, il y a une vingtaine d'années, j'étais stupéfait de voir sur la chaîne de télévision nationale, islamique, officielle, une émission faite par des femmes sur la contraception.
Alors ça, évidemment, c'est le sujet extrêmement compliqué. Alors parfois, je reçois des lettres d'écologistes, des mâles qui me disent « Ah, bah, vous n'en parlez pas, c'est un sujet tabou ». Non, c'est plus du tout un sujet tabou, la démographie. Puis on en a parlé quand même 4-5 fois dans cette émission. C'est jamais simple. D'un côté, vous avez du malthusianisme. De l'autre côté, vous avez des gens qui vous disent « Mais oui, mais ne pas avoir d'enfants, c'est un non-humanisme. Revoir notre modèle dominant. » Et oui, et c'est là que c'est pas simple du tout. Qui veut réduire son train de vie quand on est pauvre? Qui veut réduire son train de vie quand même dans l'absolu? C'est jamais très très simple. La sobriété heureuse, c'est pas encore complètement dans les gènes. Alors on sait que l'éducation des femmes et des hommes est la clé de beaucoup de choses, entre autres lorsque vous avez d'ailleurs l'arrivée de l'eau, l'arrivée de l'énergie dans une case ou ailleurs, bah, ça vous évite évidemment beaucoup d'heures de corvée, donc vous pouvez peut-être recevoir de l'éducation à la place. Ça relève aussi des politiques des pays, troisième enfant, pas troisième enfant, etc., du planning familial. Voilà, donc beaucoup de choses sont sur la table, mais en tout cas, les démographes, je sais que tout ceci, c'est des statistiques, c'est jamais une science complètement précise. Ils nous annoncent 9,5 milliards, 10 milliards autour de 2050. On poursuit le voyage, oui, après cette chanson, avec Jean-Claude Carrière.
Come on in, take a seat next to me. You know.
Portugal, The Man sur France Inter, Modern Jesus. Eh bien, nous poursuivons ce voyage avec Jean-Claude Carrière, chez lui dans le département de l'Hérault. Nous sommes à Colombières-sur-Orbe, à la césure de la Méditerranée et du Massif central. Jean-Claude Carrière, dans cette terre ici, donc, qui est la vôtre.
Nous le sommes très bien pour l'instant.
Ah bon, hein, ça.
On y mange très bien, il y a de très bons fruits et légumes. Là, nous sommes au moment où l'année est un peu en retard, mais les premières tomates d'ici arrivent à consommation et c'est un délice. On en a mangé à déjeuner, c'était une merveille.
Bah, il y a presque, enfin, pratiquement, c'est de l'autosuffisance ici, on pourrait. Enfin...
Oui, c'était presque le cas autrefois. On achetait quoi, un peu de beurre, on n'avait pas de beurre, donc il n'y a pas de vache. On achetait des bananes, quelques fruits exotiques quand j'étais enfant, mais tout le reste, on le produisait soi-même. Il y avait des lapins, des pigeons, des poules, des œufs, des cochons, tout ça. Non, on a quelques produits exotiques, du sel, on achetait, et du sucre. Oui. Ça, on ne le produit pas. De temps en temps, ça c'était le grand luxe, une tranche de viande.
Oui.
Qu'on achetait à la boucherie et qu'on faisait griller. Oui. Mais sinon, on mangeait. C'était au point que, moi qui suis encore vivant aujourd'hui, j'ai vu mon père... Quand on ramassait des clous par terre tordus, les redresser au marteau pour pouvoir les réutiliser. On ne jetait rien. Dans la maison, il n'y avait pas de salle de bain, évidemment, dans aucune maison à l'époque. Il n'y avait pas de toilette, on allait dans la nature. Et il n'y avait pas de poubelle. On ne jetait rien, mais strictement rien. C'est-à-dire, quand il y avait deux morceaux de papier le jour-là, on le brûlait, c'est tout. Mais la notion même de déchet qui est devenue tellement catastrophique, voire démentielle, dans certains on dit qu'il y a des immenses masses de déchets qui nagent dans l'océan Pacifique aujourd'hui, et qui vont un jour ou l'autre accoster sur les côtes de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Cette notion-là n'existait pas. La notion de déchet, nous sommes la génération qui a inventé le déchet.
Alors, en même temps, à la fois on est le problème et la solution, et heureusement que l'on prend conscience de ça, et qu'on ces mots de recyclage qui allaient vraiment de soi à votre époque, et donc vous l'avez rappelé, donc il n'y a pas si longtemps, maintenant ça y est, c'est-à-dire qu'on commence à...
Oui, mais j'ai 82 ans cette année. Je milite, entre guillemets, dans l'écologie depuis 50 ans, grosso modo. Tout ce dont on parle aujourd'hui, on en parlait il y a 50 ans.
C'est ça.
Hein,
le
recyclage,
on le réadapte,
etc. Éteindre les lumières, la neuf, tout.
Le troc aussi.
Et ça n'a servi à rien. Ce sont des piqûres de moustiques sur une carapace d'éléphant, ce que l'on fait. Il faudrait que ce soit extrêmement plus développé, plus strict et plus autoritaire. Quand je vois le gaspillage éhonté d'énergie qui se passe autour de nous, je me dis à quoi ça sert. Vous allez sur... Hier soir, pour revenir de Sète, des embouteillages monstrueux de voitures, des lumières partout, des bureaux allumés la nuit, enfin tout ça. Tant qu'on n'aura pas mis de l'ordre à ça, il faut pas... Moi, je suis, de ce point de vue-là, extrêmement pessimiste.
Oui. Jean-Claude Carrière, vous aviez écrit un joli texte une fois aussi, je crois que c'est sur France Inter. où vous compariez les individus dans leur voiture emmenés par le joueur de Hamelin avec sa flûte.
Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire... Là, il y a un grand coup de vent, c'est beau d'ailleurs, ah, ça doit être beau. Le joueur de flûte, nous en sommes là, nous avons des joueurs de flûte, il n'est pas seul, qui nous chantent les airs de la croissance, du développement, de la productivité, de la créativité, des échanges, du commerce, etc. Depuis Adam Smith, ça a commencé au XVIIIe siècle, et ça continue de plus belle. Ce sont les joueurs de flûte qui... La grande différence entre le joueur de flûte d'Hamelin et nous, c'est que lui amenait les rats à la rivière, mais lui ne se noyait pas. Il noyait les rats, tandis qu'aujourd'hui, les joueurs de flûte se noieront avec nous. Il ne faut pas espérer qu'eux et leurs enfants s'en sortiront. Vous comprenez, c'est cet aveuglement général que je vois autour de moi, de gens qui ont fait des études d'économie, de ceci, de cela, quelquefois d'économie politique, etc., et qui sont totalement aveugles sur leur propre comportement. Ça me frappe énormément.
Alors, qu'est-ce qui vous donne quand même raison d'espérer, malgré
rien,
tout?
Rien, bon, bah voilà. À peu près rien. Sinon que... Non, à peu près rien. Ah, oui. Dans l'état actuel, rien. Il ne faut pas espérer passer à côté d'une grave crise, qui sera une crise écologique, c'est-à-dire entre 20 et 40 ans d'ici. Elle sera sévère, hein, parce qu'il y a des populations... D'abord, il y a des terres qui vont être envahies par les mers, il y a des populations entières qui vont devoir ou disparaître, ce qu'ils n'accepteront pas, ou se déplacer. On ne pourra pas les nourrir, on ne pourra pas les loger, etc. On ne pourra pas leur fournir l'énergie nécessaire. Il y aura une crise qui, dans certains pays, a commencé. Si vous allez au Bangladesh dire qu'une crise se prépare, on va vous regarder avec de grands yeux. Vous voyez, ou au Niger, elle est là. Alors ce qui se passe dans ces pays-là va se passer chez nous. Ce n'est pas le contraire.
Votre carrière, où est votre crapaud favori?
Il est en bas des escaliers, mais il ne se montre que quand il veut bien. Ici, comme j'ai la maison la plus haute du village, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui viennent, des sangliers dans le jardin la nuit, quelques mouflons, il y a un blaireau qui est venu me voir l'autre jour, etc. Et j'ai un crapaud qui depuis plusieurs années, habite là en bas des escaliers, quelque part, je ne sais pas où exactement, et qui de temps en temps vient passer un moment avec moi.
Non, réellement, là, vous m'avez montré une photo, sur votre épaule.
Il vient sur mon épaule, il aime beaucoup ça. Il reste, il me regarde travailler, mais quelquefois pendant une heure, sans bouger, comme ça. Oui. J'avais autrefois un serpent, j'avais une couleuvre qui était là au fond du jardin, que j'aimais beaucoup aussi, que je prenais souvent avec moi. Et un jour, je l'ai vu passer dans le ciel entre les griffes d'un oiseau de proie, d'un milan. Oui. Et ça m'a beaucoup attristé. Je lui ai dit au revoir. Elle s'appelait Monica. Nous le connaissions depuis des années.
Bah oui, c'est... Donc Monica est au ciel, qu'on va dire.
Elle est au ciel, oui. Hélas, oui. Et depuis, je n'ai plus de serpent. Elle devait être la dernière de sa couvée.
C'est pas forcément bon signe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de serpent, d'ailleurs.
Oui, absolument. J'espère qu'il y en a encore ailleurs.
Oui. Jean-Claude Carrière, dans le roman d'Umberto Eco, Au nom de la rose, on se rend compte qu'en fait, à la fin du Haut Moyen-Âge, l'avenir, c'était l'avènement de Satan sur Terre. Donc, c'était pas évidemment très, très joyeux. Et puis, il y a quand même eu la Renaissance. Alors, je sais bien qu'entre-temps, il y a eu un petit peu de casse, quelques guerres de religion, surtout ici.
Enfin, les débits de peste.
Voilà, évidemment.
Un tiers de la population européenne
qui est passé, quand même. Tout à fait.
Là, il y a un livre de Delumeau qui est très intéressant sur l'histoire de la peur.
Oui.
Et qui montre comment la Renaissance est née de la peur. Est née de la peur, non seulement de l'apocalypse de la fin du monde, de la peur de la mer, de l'océan, des inondations, de peur physique. C'est absolument passionnant. Je suis à peu près certain qu'une crise écologique ne nous épargnera pas. Ouais. Est-ce que nous en avions droit à bout? C'est possible, parce que nous sommes capables de réagir. Mais si nous en venons à bout, j'ai peur que ce soit au prix de mesures politiques et militaires très autoritaire et très restrictive.
Et en même temps, quand on regarde dans l'histoire, la notion de croissance, elle est relativement récente.
Ah oui, non, bien sûr, elle date de la fin du XVIIIe siècle, des physiocrates et de Adam Smith, etc., qui d'ailleurs voyait l'économie, enfin, il est l'auteur de La richesse des nations, c'est lui le fondateur de l'économie contemporaine. Il a établi des lois des marchés et il voyait dans son système qu'il y avait des failles. un peu comme Newton un siècle plus tôt le voyait dans le système solaire, où il disait il y a des moments où mon système et mes explications physico-mathématiques ne marchent pas tout à fait bien et il faut que Dieu intervienne pour de temps en temps avec sa boîte à outils pour venir remettre de l'ordre. La même chose pour Adam Smith qui a parlé de la main invisible. Quand il parle de la main invisible qui remet de l'ordre dans les marchés, c'est déjà totalement l'autorégulation des marchés dont on parle aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans l'économie la plus terre-à-terre d'aujourd'hui, il y a du surnaturel. Il y a un appétit de surnaturel et un souhait, voire la certitude d'une intervention divine.
Là, nous sommes adossés, on va dire, à votre montagne tutélaire qui s'appelle donc le Caroux. Le
Caroux.
Qui doit être à quoi 1100 mètres.
1100 mètres, c'est pas très haut, mais comme il part de pratiquement de 50 mètres en bas, c'est assez beau à voir. La montée est vertigineuse et le spectacle est assez beau. Oui. C'est une montagne que j'ai beaucoup parcourue toute ma vie et que malheureusement aujourd'hui m'est interdite pour des raisons de vieillesse, genoux, voilà, exactement. Mais quelquefois je vais m'asseoir dans le fond de la vallée, je regarde le Caroux et par les yeux, comme ça je me rappelle les parcours que j'ai fait autrefois.
Et alors, c'est quand même un mélange assez incroyable de géologie, quoi, là-haut. Donc
la commune, comme toute la vallée, est occupée à la fois par des terrains donc anciens, le socle ancien, des terrains alluviaux de l'autre côté, et il y a aussi des éléments volcaniques. Autrement dit, les trois types de terrains, ils sont représentés. Il n'y en a pas d'autres sur la surface de la Terre, comme vous savez.
Alors vous êtes un homme qui aimait les arbres aussi, et ça me rappelle... Ça me rappelle Jean-Louis Etienne, qui est votre voisin, donc dans le département du Tarn, du côté de Vielmur, et puis qui me disait, lorsque je pars faire une expédition, avant, j'en serre un arbre dans mes bras, l'occurrence c'est un platane, pour récupérer son énergie qui me servira plus tard.
Là vous avez des arbousiers par exemple, qui est un autre. Regardez, on voit les premières arbouses. Qui sont encore vertes,
Avec
lesquelles on fait de la confiture, mais on les garde surtout sur l'arbre, vous savez pourquoi? Parce que ça attire des griffes. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers sauvages. Ça, c'est un... On a fini la récolte ici, là. Ça, c'est un noisetier. Cette année, c'était une année à noisettes. Peut-être parce qu'il a beaucoup plu. On a eu énormément de noisettes. Et là, c'est un mirabellier.
Il faut attendre un peu, quand même.
On va bientôt, là. Oui, tout est en retard, cette année.
On va lui laisser 15 jours encore au mirabellier.
C'est
à peu près ça. Voilà. Ah, puis là
on... J'aime bien les fruits un peu verts.
Je vous laisse faire.
En dessous, il y a un jardin potager qui n'est pas à moi. Qui est à mes voisins, les dressers, et qui est très beau.
Il y a tout,
Il y a un puits ici, donc on est sur une nappe d'eau ici, donc ils ont toute l'eau nécessaire pour arroser.
Jean-Claude Carrière, on repasse là, ça y est, dans la
bande de
Vallée. Oui. C'est formidable parce que ça filtre complètement la lumière.
Oui, c'est beau ça, j'aime beaucoup ça. Et il fait frais aussi.
C'est bien.
Alors la présence de bambou ici indique très clairement qu'il y a de l'eau en dessous.
Ah oui.
Évidemment.
C'est un grand pompeur d'eau.
Et vous savez que c'est la plante au monde qui pousse le plus vite.
Oui.
Et dans certains, pas ici, mais dans des climats plus équatoriaux, plus tropicaux.
Un mètre cinquante.
Oui, par jour. Ça peut exister. Ouais. C'est plus que nous.
Est-ce qu'il y a d'autres arbres aussi qui vous plaisent bien ici, qui font que vous allez de temps en temps les visiter?
La maison est entourée de frênes. Alors le frêne est un arbre redoutable parce qu'il a des racines très longues et ne tolère que peu de compagnie. En revanche, c'était un arbre très utile parce que, vous voyez, tout ça là-bas, c'est des frênes. C'était un arbre très utile parce que les feuilles étaient mangées par les chèvres et l'écorce par les lapins. Et on en faisait des fagots qu'on gardait tout l'hiver. Et en plus, on dit que l'ombre du frêne protège de certaines maladies. Voilà, alors les frênes, je les ai gardées. Vous voyez, celui-là a été taillé il y a 2 ans là-bas. Ici, avant, là, vous avez des fleurs et des lauriers roses comme partout dans le midi. Il y a un amandier, là, qui dépasse un peu. Oui. Et derrière, des mimosas. D'ailleurs, mon adresse est Allée des Mimosas.
Ah, oui.
Et enfin, l'arbre qu'on voit le plus ici et qui entoure la maison, c'est le laurier. Mm-hmm. Si vous avez besoin d'un peu de laurier sauce, vous pouvez en prendre.
Pas me gêner.
Oui.
Qu'est-ce que vous ont appris d'un point de vue écologique ces gens que vous avez rencontrés qui étaient les Yanomami ?
Du point de vue écologique, pas grand-chose, parce qu'ils vivent bien avant l'invention de l'écologie,
oui.
Puisque c'était à la fin des années 80, des Indiens récemment découverts dans l'Amazonie du Nord, et découverts depuis 4 ans, et qui étaient des chasseurs-collecteurs, c'est-à-dire qui vivaient au paléolithique, pas au néolithique. Avant la révolution néolithique, il n'y avait pas d'agriculture, pas de poterie, pas d'art, pas de religion, rien de tout cela. Ils vivaient, et en même temps, ils vivaient dans une communauté organisée qui avait de toute évidence ses règles, sous une maloca commune où il y avait à peu près 70 personnes, où j'ai été admis avec mon hamac. C'était d'ailleurs assez étonnant. Et je me suis retrouvé là, à l'origine du monde, on peut dire. J'allais avec eux, ils m'amenaient pour ramasser du manioc, des fruits, pour pêcher aussi. Et c'est là où le fait d'être né ici à Colombières m'a été utile, parce que je sais placer un filet, je sais chasser les poissons dans un filet, lancer les perdrix, etc. Ça les a. En revanche, je n'ai jamais pu me servir de leur arc pour, de la rive, attraper un poisson à la flèche. Parce que vous savez, il y a une réfraction dans l'eau. Oui. Donc il ne faut pas viser le poisson,
non, mais
faut viser
à côté.
Oui, c'est ça. Et ça
en anticipant.
C'est ça. Ça, il semble faire, mais poissons. Pas moi. Je n'y suis pas arrivé.
Oui.
Mais c'était un séjour magnifique. Pas long, hein, de 5 jours. 4 ou 5 jours, totalement entre leurs mains, puisqu'ils avaient le droit de vie et de mort sur moi. Mais c'était une expérience. Je voulais savoir, parce que c'était pour les besoins d'un film, ce qu'ils faisaient le soir. Parce que sous les tropiques, la nuit tombe à 6h, et de 6h à 6h du matin, pendant 12h, on ne peut pas dormir, c'est pas possible. Et je voulais savoir ce qu'ils faisaient le soir, n'ayant aucune lumière, rien. Eh bien, ils se racontent des histoires. De hamac à hamac, de petit groupe à un autre, ils se racontent pendant 4 heures tous les soirs des histoires. Que naturellement, je ne pouvais pas comprendre, mais dans lesquelles je reconnaissais de temps en temps des bruits d'animaux, des grognements, des raclements, certainement il y avait des personnages d'animaux dans leurs histoires. Oui.
Parce qu'ils parlent aussi en imitation, quoi. Donc,
oui, en faisant un on entend des bruits comme ça et on dit ça c'est un animal.
Oui. Ouais.
Alors quelques mots quand même sur l'Orbe qui coule donc à nos pieds et qui peut être une rivière alors à la fois très gentille mais aussi assez violente. Hein, donc
il y a eu une crue célèbre au XVIIIe siècle,
hein,
au milieu du, je ne me rappelle plus exactement l'année, vers le milieu du XVIIIe siècle, très très sévère, très grave, qui fait qu'il n'y a plus de maisons au bord de l'Orbe.
D'accord.
Toutes les maisons se sont réfugiées sur les hauteurs, c'était déjà le cas. L'Orbe est un fleuve côtier.
Mm-hmm.
Comme l'Hérault. Il n'a pas eu la chance de l'Hérault, il n'a pas donné son nom au département, mais ils sont à peu près de même. L'Hérault est peut-être un tout petit peu plus fort de débit. Ils ont à peu près la même longueur. Les gorges de l'Hérault sont très belles. Et ici, l'Orbe, à partir de Tarassac jusqu'à Béziers, c'est magnifique. C'est un des plus beaux paysages qu'on puisse rêver. Il y a beaucoup de kayaks, il y a beaucoup de canoës-kayaks, tout ça.
Oui.
Et c'était, pour nous, l'Orbe était, surtout pendant la guerre, notre garde-manger.
Oui.
On mangeait du poisson 3 fois par semaine, on braconnait terriblement. Et je crois que sans l'Orbe, et les ruisseaux qui donnent dedans, dans lesquels il y a des truites et tout ça, il y en a beaucoup moins maintenant, je crois que nous aurions plus difficilement survécu. Le poisson a été une grande source d'alimentation pour le village. On pêchait de toutes les manières possibles, y compris tout l'été à la main.
Mmh.
C'est-à-dire, moi, c'est comme ça que j'ai pêché avec mes copains, on partait sans rien, avec un sac, et on plongeait, on allait sous les cailloux, on attrapait des poissons. Et on est rentré très fiers à la maison, parce qu'on avait de quoi nourrir la famille.
Alors, il y a aussi le spectacle du ciel que vous aimez bien, donc là, évidemment, c'est la fin d'après-midi, donc on a un petit champ de nuages avec du vert dessous.
Oui, mais c'est des... oui, c'est bleu, blanc, vert.
Ouais, c'est ça.
Vert au pluriel, parce qu'il y a
toutes les nuances.
Toute une grande nuance de vert. Oui.
D'ailleurs, l'Occitan...
cette année est particulièrement verte à cause de la pluie. Il y a eu un printemps très pluvieux. D'ordinaire, l'été est plus jaune que ça, et plus sec que ça. J'aime les saisons, d'une façon générale, c'est-à-dire je vis plus difficilement dans les pays où il n'y a pas de saison. Oui, c'est que j'aime bien que l'hiver arrive, l'automne, que les feuilles tombent, que le printemps revienne, peut-être parce que j'y suis habitué depuis l'enfance, évidemment. Je n'ai pas de saison favorite, mais j'aime les saisons. Voilà, la succession de... peut-être parce que nous sommes nés dans un climat tempéré où les saisons sont plus marquées qu'ailleurs. Mais c'est vrai que dans des pays comme... l'Inde ou comme le Mexique, où il y a une saison des pluies, et puis tout le reste est chaud, toute l'année, ou à peu près, un peu plus sec quand arrive le mois de mai-juin, avant que les pluies commencent. J'y suis aussi à l'aise, hein, j'aime beaucoup, par exemple, ici, ce paysage-là, qui est un paysage d'été, là, où nous sommes en plein été, le retrouver à Noël, quelquefois même avec de la neige. Oui, c'est très agréable.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jean-Claude Carrière, à des gens justement qui se battent, parce que c'est quand même aussi un combat, pour essayer de mettre en avant le fait que nous ne vivons pas hors sol les uns les autres, et ces gens qui soient militants ou bien simples citoyens d'ailleurs, et qui se disent, ouais, quand même, si on ne fait pas attention à notre environnement, à notre écologie, on ira dans le mur. Parce que quand même, beaucoup de gens se battent.
Je n'ai plus envie de dire quoi que ce soit, parce que j'ai beaucoup dit depuis 50 ans pour rien. Voilà,
ça peut être émergé, là.
Oui, moi je vous dis, je n'y crois pas.
Ouais.
Tout simplement, je n'y crois pas. Et je crois que maintenant, il faut attendre la crise et voir ce que cette crise donnera. Comme la crise de la fin du Moyen-Âge a donné la Renaissance, il est possible qu'il y ait une autre prise de conscience que celle qui nous régit en ce moment et qui nous domine. Et qui est totalement, totalement aberrante, à mon sens.
Jean-Claude Carrière, dans cet environnement qui nous entoure, qu'est-ce que vous aimeriez nous offrir peut-être avant de partir?
Les produits de la terre. C'est-à-dire qu'ici, on mange encore... mon voisin m'apporte tous les matins une grande corbeille avec les fruits et les légumes du jour qui viennent d'être cueillis, qui sont totalement, évidemment, bio, sans aucune espèce de... Enfin, l'agroalimentaire est devenu fou, quoi. Depuis quelques années, ce qu'on nous fait manger est insensé. Alors, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais... Venez ici... manger une pêche d'ici, manger une tomate d'ici, et dites-moi quelle est, si vous sentez une différence.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur votre carrière?
De vivre encore l'année prochaine.
Je vous confirme, les pêches et les tomates sont absolument excellentes. Merci Jean-Claude Carrière, merci à Sandrine Laurent et à Maxime Ingrand à la technique, à Christophe Imbert qui a réalisé l'émission, qui a colorié cette émission, à Stéphane Combe, à Albert Houck, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour. La semaine prochaine, une émission justement Le Monde en Marche, avec pas mal d'initiatives, collectivités, jeunes, étrangers, entreprises. Le répondeur 01 56 40 40 35. Vous pouvez aussi alimenter le site comme vous le souhaitez sur franceinter.fr. Et puis la tuile du Montilou, ce sera demain après les petits bateaux à 19h54. N'oubliez pas, vivre avec les bêtes avec Alain Bougrain-Dubourg, ce sera demain à 15h.